Voilà, je voudrais rentrer dans le thème que vous m'avez proposé. Un week-end d'église sur la sexualité, c'est un sujet passionnant. Enfin, j'espère en tout cas que ceux qui ont participé aux différentes réunions que j'ai faites ont apprécié en tout cas la manière dont la Bible traite ce sujet et la Bible qui est toujours étonnante dans sa manière de nous présenter les choses. Et ce matin, on m'a demandé de traiter ce thème de vivre ensemble. Et j'ai décidé de rester un peu dans la tonalité du week-end et vous dire, à partir de Matthieu 19, 1 à 15, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vivre ensemble. Et je vous invite à lire Matthieu 19, 1 à 15, un texte connu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée pour se rendre dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent. Et là, il les guérit. Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ils dirent alors, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de divorce à la femme quand on la répudie? Il leur dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour un conduit sexuel, en épouse une autre, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, ben, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du règne des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors des gens lui amenèrent des enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les rabrouèrent. Et Jésus leur dit, laissez faire les enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Il leur imposa les mains et il partit de là. Deux autres textes que nous avons lu ce matin, ce week-end, pardon. Et nous lirons dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et puis au chapitre 2, verset 18, le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel, il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour lui, l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, renferma la chair à sa place, et le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Cette fois, c'est vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Voilà des textes très connus. Alors, je vais être obligé de mettre mon PC sur le... Parce que ma commande à distance ne marche plus. Donc, il ne faut pas me pencher tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il n'y a qu'un orateur qui sait exactement où est-ce qu'il veut venir en lisant des textes et en proposant des textes bibliques comme je vous ai proposé ce matin. Et vous pouvez certainement vous demander qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce thème, vivre ensemble, selon Matthieu 19, 1 à 15. Et j'aimerais vraiment placer tout ce que j'aimerais partager avec vous ce matin sous l'angle d'un sujet que nous avons en partie traité ce week-end avec les différents groupes où j'ai été, où j'ai fait une présentation, qui est le thème de la fécondité. Et quand je lis Matthieu 19, je crois, oui, qu'il est question de fécondité. Et pourquoi je choisis ce texte en introduction et pourquoi il me semble vraiment bien illustrer cette réalité du vivre ensemble, c'est que vous avez noté en 15 versets, tout le monde est là. Jésus saisit une question sur le divorce pour donner un enseignement sur le mariage. Ça, c'est Jésus qui répond non pas forcément aux questions qu'on lui pose, mais aux questions qu'on devrait se poser. Et du divorce, il nous donne un enseignement sur le mariage en citant deux versets de la Genèse que j'ai choisi aussi de lire. Genèse 1, 27 et Genèse 2, 24. Au commencement, Dieu créa l'homme. Genèse 1, 27, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Et puis du mariage, où Jésus donne des choses et des idées vraiment qu'on aurait intérêt à méditer, à bien comprendre, il aborde la question des gens non mariés. Alors, ne me faites pas dire que je considère les eunuques du temps de Jésus comme les célibataires d'aujourd'hui. Ce serait vraiment faire une insulte aux célibataires que de les mettre sous le thème de l'eunuque. Et les eunuques dont Jésus parle n'ont rien à voir avec les célibataires d'aujourd'hui. Je préfère le dire afin qu'il n'y ait pas de malentendu dans ce que je vais dire là. Mais le point commun, en tout cas, que les eunuques partagent peut-être avec les célibataires d'aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne sont pas mariés. Mais c'est la seule corrélation qu'on peut faire et il ne faut pas aller plus loin. Puis Jésus dit sur ces eunuques vraiment des choses absolument étonnantes. Et puis, vous avez vu, les parents arrivent, et puis les disciples qui sont un peu comme les gardiens du temple, les gardes du corps du Seigneur qui empêchent les parents de venir avec leurs enfants. Et Jésus accueille les enfants, accueille les parents. Et pour chacun, que l'on soit seul, que l'on soit marié, que l'on soit parent, que l'on soit enfant, Jésus apporte son attention, sa vigilance, une parole, et on repart jamais comme on est venu une fois qu'on a rencontré le Seigneur. Et c'est vraiment parce que tout le monde est là que j'ai choisi ce texte de Matthieu 19. Et pourquoi relire en effet les textes de la Genèse ? Parce que Jésus resitue tout son enseignement sur l'homme, la femme, sur le mariage, sur le vivre seul, les parents, les enfants, dans ces textes fondateurs de la Genèse. Et je crois que c'est très important que, que nous puissions nous référer aussi dans notre réflexion à ces textes sur lesquels Jésus s'appuie hein, pour affirmer ce qu'il affirme. Et j'ai parlé de la sexualité et j'ai indiqué effectivement qu'une des, raisons d'être de la sexualité telle que Dieu nous l'a donnée, c'est cette raison d'être de fécondité. Et l'être humain vient de Dieu, retourne à Dieu et passe par ses parents. C'est très intéressant ça, de voir la chose sous cet angle-là. Nous tous, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Et il n'y a qu'un passage possible, c'est de passer par nos parents. Nos parents qui sont en quelque sorte passeurs de vie. La vie ne vient pas des parents. La vie vient de Dieu. Et l'honneur, le privilège que Dieu nous accorde, eh bien c'est de transmettre la vie, de devenir passeur de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'immense, un cadeau que Dieu nous fait. Et David le dit très bien dans le psaume 139, hein, c'est toi qui m'as produit dans les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai vraiment été fait de façon merveilleuse. Et c'est important que nous tous dans l'Église, qui voulons vivre ensemble d'une manière juste, eh bien, nous puissions chacun nous regarder comme créature merveilleuse de Dieu, comme création merveilleuse de Dieu. Et en mettant au monde les enfants, le couple humain participe ainsi à l'œuvre créatrice de Dieu. Il prolonge l'œuvre créatrice de Dieu. Mais c'est important de préciser que la procréation n'est pas la fin unique du couple marié et que la fécondité ne se réalise pas seulement que dans le fait de faire des enfants. Parce que je crois que nous sommes tous appelés à une fécondité de cœur et que cette fécondité de cœur vient de ce que Dieu est véritablement, celui qu'il a déposé en nous. Et trop souvent dans l'Église, on limite la fécondité seulement du côté du couple, seulement du côté des gens mariés. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas mariés ou tous ceux qui n'ont pas le privilège de faire des enfants ou d'avoir des enfants, on les met dans une catégorie un peu à part, non identifiée vraiment. Mais j'aime bien voir dans la Genèse, et Jésus cite Genèse 2:24 dans sa réponse aux pharisiens et aux disciples, eh bien, quand la Bible décrit les éléments qui sont essentiels au mariage, eh bien, il est significatif que les enfants ne soient pas expressément mentionnés. Il y a un point après le verset 24. Alors, je ne vais pas faire la théologie des points. Hein. Si j'avais écrit la Bible, moi j'aurais rajouté peut-être un homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviendront une seule chair, et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. La démarche qui consiste donc en quitter, s'attacher et devenir une seule chair, eh bien, constitue la réalité du mariage. Même s'il n'y a pas d'enfant, eh bien, l'union en une seule chair n'est pas privée de sens pour autant. Et je trouve nécessaire de préciser ça, parce que trop souvent dans nos églises, on regarde ceux qui n'ont pas d'enfants, et parfois avec un regard lourd de reproches non dits ou de culpabilité inavouée, que peut-être ils sont marqués par une sorte de malédiction et que le fait de ne pas avoir d'enfants font qu'ils sont des gens à part, des gens non féconds. Eh bien non, si je lis Genèse 2:24, l'union en une seule chair n'est pas privée de sens, même s'il n'y a pas d'enfant. Et que vivre ensemble, ça signifie aussi accueillir cette réalité-là. Et pour des couples qui n'ont pas d'enfants, pouvoir réaffirmer que le mariage reste intègre et réalise pleinement l'intention de Dieu, sans qu'aucune ombre ne doive planer sur lui. Alors, c'est peut-être pas le cas à Clermont-Ferrand, mais je connais tellement de situations de par le monde, de gens qui vivent la non-fécondité d'enfants comme comme le sceau d'une sorte de malédiction, vraiment. Et parfois, le regard des frères et des sœurs dans l'Église, hein, eh bien, complique un peu la chose. Non. Dans Genèse 2, 24, il y a un point après le mot « cher ». Et la Bible présente la fécondité et les enfants comme une bénédiction. Mais une bénédiction qui s'ajoute au mariage, Genèse 1, 28, à la manière d'un cadeau totalement gratuit. Et je comprends pourquoi le Seigneur prend le temps de s'arrêter pour accueillir les enfants. Hein. Les disciples qui veulent ériger une sorte de mur entre leur maître qu'ils considèrent trop sérieux, trop pris, trop engagé pour pouvoir prendre du temps avec les enfants. Eh bien, parce que les enfants sont une bénédiction et que nous devons et que nous avons vraiment l'invitation de les regarder comme ça, eh bien, accueillons aussi les enfants et vivons avec les enfants comme étant des bénédictions à part entière. À part entière. Et il me semble que quand nous lisons ces textes, je dirais que dans l'idée que Dieu se fait de la fécondité, je pense qu'elle se situe bien au-delà des enfants. Alors, tout d'abord, de bien noter que c'est l'homme et la femme ensemble, hein, de manière complémentaire, qui portent l'image de Dieu. Et la création du couple dans la Genèse apparaît vraiment comme le sommet de l'œuvre de Dieu. Alors, quand je parle du couple, je ne parle pas seulement du couple marié, c'est véritablement le couple homme-femme. Le fait que dans nos communautés, nous soyons confrontés à la mixité et que dans la souriante lumière de Dieu, cette mixité est vraiment le lieu où Dieu veut placer la fécondité de cœur à laquelle nous sommes tous appelés les uns et les autres. Et comme je l'ai fait remarquer aux jeunes adultes vendredi, eh bien, la logique qui prévaut le sixième jour est la même que celle que l'on voit des versets 1 à 27 dans le livre de la Genèse, la création tout entière, qui est présentée comme un acte de séparation et de différenciation. Relisez ces chapitres et soyez émerveillés par la manière dont Dieu fait les choses, à partir d'une masse informe, à partir du tohu-bohu, Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Il va séparer les eaux qui sont en dessous de la voûte des eaux qui sont au-dessus, au verset 7. Il va séparer la terre de la mer. Il sépare les herbes et la verdure des arbres fruitiers. Il sépare le jour de la nuit. Les animaux aussi sont différenciés selon leur espèce. Et puis, la création de l'homme arrive. Dieu créa l'homme. Hommes et femmes, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Et chaque fois que Dieu sépare, chaque fois que Dieu différencie, eh bien Dieu se réjouit. Dieu trouve que cela est bon. Dieu trouve que cela est bon. Et c'est pour ça qu'on est un peu frappé dans Genèse 2, 18, quand Dieu, regardant et constatant que l'homme ne trouve pas de correspondant, que Dieu fasse ce commentaire un peu qui ressemble un peu à une autocritique, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que le chapitre 1 est vraiment marqué par cette joie de Dieu par rapport à la séparation, à la différenciation, le chapitre 2 nous montre Dieu qui regarde l'homme et qui constate que vraiment c'est pas bon d'être seul. Et Dieu a placé en nous sa fécondité quand il nous a créés à son image. Et dans l'Église, il me semble parfois que nous ne sommes pas vraiment accueillants les uns des autres, et bien de cette fécondité que Dieu a placée en nous, et cette fécondité qui doit se traduire d'une manière tellement diverse, tellement particulière, tellement riche, tellement étonnante. Et une des particularités de cette fécondité de Dieu, quand dans la Genèse on le voit créer, eh bien c'est ce fait que Dieu sépare, Dieu ne laisse rien mélanger. Dieu trouve que la différence est bonne, même très bonne, pour ce qui concerne le sixième jour et la création de l'humanité sexuée. Alors je vous pose une question, dans la diversité de votre vie communautaire, est-ce que vous trouvez la différence très bonne? Est-ce qu'on a cette joie de regarder le frère, la sœur avec qui nous sommes appelés à vivre ensemble et à le regarder vraiment comme quelqu'un marqué par la fécondité de Dieu, marqué par la créativité de Dieu, et même différent de moi, totalement différent de moi, mais vraiment que la différence est bonne. Mais vous êtes une église exceptionnelle à Clermont-Ferrand, parce que moi je réalise que dans toutes les églises où je vais, c'est la différence qui pose problème dans nos communautés. Il nous faut gérer nos différences, et qui parfois, différences, entraînent des différends dans notre manière de prier, dans notre manière de chanter, dans la piété que nous avons, dans notre manière de vivre, notre manière de nous habiller, notre manière de vouloir louer. Et on est gêné toujours par ceux qui sont trop différents de nous. Eh bien, il me semble que si j'admets que je suis créature de Dieu, si j'admets que je suis vraiment dans le bon plaisir de Dieu, et si j'admets que Dieu, au travers de sa création, se réjouit de la différence, et il la promeut, parce que dans le monde voulu de Dieu, par Dieu, ben, l'ordre et l'harmonie viennent de la différenciation et viennent de la différence. Et je vois que dans nos vies de tous les jours, ce n'est pas vraiment une réalité qui nous habite. Parce que je vois tellement de couples, et là, ma casquette de conseiller conjugal ressort un petit peu, où on a de cesse de transformer l'autre à son image. Et on est prêt véritablement à aimer l'autre qu'à la condition qu'il devienne ce que je veux qu'il devienne. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour? Je faisais remarquer aux jeunes que chacun, on arrive dans le mariage avec une idée prédéfinie, préconçue de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme. Alors cette image est marquée par les films que j'ai vus, par les actrices que j'aime, par les acteurs qui m'ont impressionné, par mon père tel qu'il a été avec moi, ma mère telle qu'elle a été avec moi. Je faisais remarquer que ma mère, quand j'avais 15 ans, venait me masser le soir. Vous savez, à La Réunion, on est très tactile et j'aimais vraiment ce moment avec maman où elle venait me masser le dos et où là, j'avais un moment intime très fort avec elle et je pensais que toutes les femmes aimaient masser comme ça. Et quand j'ai fait comprendre à Martine que j'aimerais bien que ce rite et ce rituel soient poursuivis, j'ai été surpris par sa réaction. Et puis on vient tous avec une image et puis on va dans la relation amoureuse et pas seulement dans le mariage. Et là, j'ai prévenu les jeunes que j'ai rencontrés hier après-midi que c'est la tentation majeure dans une relation amoureuse, et bien celle de transformer l'autre à notre image. Et puis là, on ne sait plus vivre ensemble quand on fait cela. Et il me semble que si je m'inspire de la fécondité de Dieu, eh bien je vais être fécond dans la communauté, le vivre ensemble, dans la manière d'aimer. On ne reste pas dans le mélange. On ne reste pas dans la fusion. L'amour fécond que Dieu met dans ma vie, dans mon cœur, dans la communauté chrétienne, me permet d'accueillir l'altérité. L'altérité que le dictionnaire définit comme le caractère de ce qui est autre. Hein. Sans chercher à altérer l'autre, hein. Le Larousse qui définit altérer comme l'action de rendre autre. Et je vous assure que nos vies de communauté sont compliquées parce que nous avons beaucoup de peine. Je crois à accueillir de manière féconde cette altérité. Et l'amour qui me permet de dire « j'aime qui tu es hein. ». Et je promets de n'utiliser aucun moyen de puissance pour te transformer à mon image. C'est mon engagement, c'est mon désir. Je ne vais pas toujours y réussir, je ne vais pas toujours y parvenir, parce que j'aime bien quand même que les autres me ressemblent un peu. Hein. C'est plus facile de vivre avec les gens quand ils sont comme nous. Mais je te promets que dans la communauté, je vais t'accueillir parce que tu es toi. Et comme je l'ai dit hier, je vais choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison à tout prix. Fécond à la manière de Dieu. Fécond également dans la manière de dominer et de servir. C'est le théologien Chris Wright qui, à l'œil, nous a fait remarquer ce point qui m'a vraiment bouleversé quand je l'ai réalisé. Le fait que l'homme est créé le sixième jour, hein, qu'il n'y a pas un jour spécial pour l'homme. Et qu'il est créé le même jour que les animaux. Et il y a quand même une différence entre les animaux et nous. C'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la manière dont le Seigneur amène la création de l'homme, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Et le mot qui serait certainement plus juste à mettre là, c'est le mot servir. Faisons l'homme à notre image afin qu'il serve la nature. Et qu'il serve la nature dans le but que, dans une sorte de réciprocité vertueuse, cette nature le lui rende par la nourriture qu'on va y tirer. Et là, on a tous les fondements de l'écologie biblique, Olivier. Et Dieu nous a créés à son image pour nous équiper divinement, pour nous permettre de servir et de dominer de manière appropriée. Et Dieu met son image en nous pour faire que la domination que nous allons exercer soit une domination juste, qui ne confond pas autorité et autoritarisme, qui ne confond pas domination et prise de pouvoir sur l'autre, qui ne confond pas service et mettre l'autre à notre service. Et la meilleure image que nous puissions avoir de ce service, c'est celle de Jésus dans Jean 13. Jésus, Dieu à nos genoux, Jésus qui sait que Dieu, qu'il vient de Dieu hein, et qu'il retourne à Dieu, sachant que Dieu a tout remis entre ses mains, tout remis entre ses mains. Jésus a la souveraineté absolue sur l'univers entier. Jésus, sachant tout cela, transforme cette compréhension de son autorité en geste de serviteur. Il se déshabille, il prend une bassine et il lave les pieds de ses disciples. Eh bien, dans l'Église, soyons féconds dans notre manière de dominer. Et remplaçons ce mot dominer plutôt par le mot servir. Et que notre service les uns des autres, notre service pour l'autre témoigne de cette image que Dieu a placée en nous. Cette image féconde hein, qu'il a placée en nous et qui nous permet d'être équipés pour ne pas agir d'une manière qui ne l'honore pas, qui ne le sert pas, et surtout dans les relations que nous sommes appelés à avoir les uns envers les autres. Mais fécond aussi dans l'Église, dans la manière de trouver des solutions et d'inventer ensemble. Cela vaut pour notre génie professionnel, et il y a des génies professionnels parmi nous. Et je pense qu'on peut le dire de nous tous par rapport à la compétence que Dieu nous a permis d'acquérir. Fécond dans l'Église au travers de notre sens artistique. Fécond dans notre manière d'utiliser notre intelligence pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Fécond dans notre manière de vivre notre spiritualité. Et je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil, parce que ce n'est pas mon habitude, mais ce que j'ai vécu avec vous pendant ces deux jours m'a profondément ému et touché. La soirée que j'ai passée vendredi soir avec les jeunes adultes, de voir des jeunes adultes à l'église et vivre cette communion, cette réciprocité, cette fécondité de cœur. Et il a fallu que je demande à Marie-Aude, non, c'est Anne-Laure, pardon, à 1h du matin de me ramener parce que je commençais à être un peu fatigué. Mais on aurait pu passer toute la nuit et puis ils étaient bien ensemble. C'est incroyable. Que des jeunes adultes restent à l'église et aient envie de rester, mais vivez ça, mes amis, comme une vraie bénédiction, parce que ce n'est pas le cas de toutes les églises. Vraie fécondité de cœur. Et on invente de manière très créative, sans standard, eh bien, la vie qu'on a envie d'avoir devant le Seigneur, sous son regard et au service des uns des autres. Fécond dans notre manière d'exprimer notre sensibilité, fécond dans notre manière d'être au monde, fécond dans notre manière de nous approcher des autres, fécond dans notre manière de tisser des liens dans la communauté et de vivre ensemble. Cette allusion que Jésus fait à l'eunuque. Alors Jésus a une manière de dire les choses et de faire les choses qui est vraiment surprenante. Alors je ne sais pas comment vous comprenez, et Jésus, sachant que nous allions être tourmentés par ce qu'il dit sur l'eunuque, nous dit un peu presque avec un clin d'œil, hein, « comprenne qui pourra ». Alors je ne sais pas ce que vous comprenez. On parle du divorce. À partir du divorce, Jésus donne un enseignement sur le mariage. Et puis du mariage, il parle des eunuques. On a l'impression que ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Et on se dit, mais pourquoi? Et puis entre les gens mariés et les parents et les enfants qui viennent à la fin, il y a ces eunuques. Ben, je pense que Jésus, et là, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous montrer là maintenant, mais j'ose le faire. Ben, Jésus nous invite à être féconds comme l'eunuque. Alors que précisément, ce qui caractérise l'eunuque dans le regard que la société porte sur l'eunuque, c'est qu'il est plus fécond. Et j'aime beaucoup ce texte de Isaïe 56, et certainement que le Seigneur pensait à ce passage quand il cite le cas des eunuques, hein, que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec !» Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais, jamais, jamais retranché. Alors j'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de rapport entre les eunuques et les célibataires, hein, et je continue à le dire. Le seul point commun entre l'eunuque et le célibataire, c'est effectivement qu'ils ne soient pas mariés, les deux. Il me semble que parfois dans l'Église, certains d'entre nous se regardent comme des arbres secs. Qui se regardent comme des arbres secs, souvent à cause du regard des autres, parce qu'ils ne sont pas dans la norme, ou ils ne sont pas dans l'accomplissement du signe de l'humain, qui est souvent dans nos églises protestantes et évangéliques, le mariage. Et parce qu'ils ne sont pas mariés, ou parce qu'ils sont seuls, ou parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ben, on les regarde comme des arbres secs. Alors, j'aimerais vraiment que dans l'Église, personne ne se sente comme un regard sec. Enfin, regarder comme un arbre sec. Et il me semble que c'est vraiment ce que le Seigneur nous dit et nous explique au travers des eunuques, et je termine sur ça. Cette idée que la fécondité à laquelle Dieu nous appelle n'est pas liée à notre statut matrimonial. Il faut vraiment que dans l'Église, on accepte cela, on accueille cela. Et que nous sommes véritablement invités à le croire, à le vivre et à nous y enraciner. Et si cela est vrai, eh bien, l'intention pour tous, pour les gens mariés comme les gens non mariés, l'Église où on est appelé à vivre ensemble et à s'accueillir réciproquement, eh bien, c'est une vie pérenne, une vie en fécondité qui ne soit pas liée à la fécondité biologique ou conjugale. Et je vois tellement de gens se mettre un peu sous une bulle. Hein, Jésus utilise un mot, on ne met pas le flambeau sous le briseau, hein, le boisseau. On se met un peu sous un boisseau parce qu'on a l'impression que tant qu'on n'a pas trouvé l'âme sœur, tant qu'on n'a pas trouvé celle avec qui ou celui avec qui on va vivre une vie enfin pérenne, eh bien, on ne rentre pas dans les fécondités. Eh bien, la fécondité à laquelle Dieu nous appelle va au-delà. Et c'est la reconnaissance pour nous tous qu'il y a une vie possible et riche au-delà du mariage et des enfants. Et que dans l'Église, dans nos milieux, nous ne devons pas l'occulter, hein, mais inviter chacun à se donner les moyens de ne pas se regarder comme un arbre sec. C'est fondamental. Et Jésus le fait d'une manière qui est surprenante quand, dans son propos, je crois qu'il n'invite pas à la continence perpétuelle, hein, ceux qui veulent se consacrer exclusivement au royaume des cieux, mais Jésus invite à la fidélité. Dans le mariage, comme ailleurs. Le problème des disciples, hein, qui reprennent en aparté le Seigneur sur ce qu'il a dit sur le mariage, leur problème, c'est la fidélité au lien conjugal. Et les disciples qui disent au Seigneur, mais écoute, si vraiment le mariage, c'est rester avec la même femme le temps qu'il nous reste à vivre, mais ce n'est pas avantageux de se marier. Parce que nous, les hommes, on voudrait quand même que le mariage reste ouvert, en tout cas les hommes qui parlent avec le Seigneur, peut-être pas les hommes d'aujourd'hui, hein, mais on veut que le mariage reste sous notre contrôle et puis le divorce aussi. Mais s'engager le temps qu'il me reste à vivre avec une seule femme, Seigneur, si vraiment c'est ça le mariage, non, c'est pas bon, c'est pas avantageux. Et Jésus semble dire à ses disciples, eh bien, si certains supportent une privation comme les eunuques. Vous, mes disciples, vous pouvez bien supporter aussi cette autre discipline de la fidélité inébranlable au lien conjugal. Et ce que je trouve extraordinaire en parlant des eunuques, c'est que Jésus prend en exemple la fidélité des eunuques pour motiver et inspirer des personnes mariées. C'est incroyable! Parce que nous ne soyons pas mariés ou que nous soyons mariés, notre vocation commune, c'est être fidèle. Et j'ai parlé de la sexualité aux jeunes adultes et aux jeunes hier en disant qu'effectivement, la parole de Dieu est très claire sur le fait que les relations sexuelles sont réservées au mariage. Mais comment enseigner ça à des jeunes, à des adultes qui sont plongés journellement dans une société qui ne jure que par le sexe? Eh bien, votre fidélité à cette ordonnance biblique, chères personnes non mariées, chers frères et sœurs non mariés, moi m'émeut profondément. Et je suis frappé que Jésus prenne cette fidélité en exemple pour motiver des gens mariés à être fidèles inébranlablement à leur conjoint. On est dans la même barque. On mène le même combat. Et chacun avec des choses différentes, chacun avec des luttes différentes. Mais le combat que nous avons en commun, c'est d'être fidèles. Eh bien, soyons pédagogues les uns des autres, hein, mariés et non mariés, dans l'Église, hein, eh bien, pour nous démontrer que c'est possible d'être fidèles. Mais que le Seigneur nous aide à vivre cette vocation commune pour sa gloire. Amen.